Le titre de mon message aujourd'hui, Avertissement et espoir puissant. Avertissement et espoir puissant. En fait, le titre de mon message représente le livre de l'Apocalypse et ce que le livre de l'Apocalypse nous enseigne. Comme vous savez, c'est le dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse, et il joue un rôle très important. Parce que dans ce livre-là, Dieu a révélé à l'apôtre Jean et lui a ordonné de l'écrire dans un livre tout ce qui allait survenir au temps de la fin, là où nous sommes rendus, juste avant le retour du Christ. Ce livre révèle l'avenir de l'humanité et en même temps l'avenir de la planète Terre au complet. C'est un livre, d'ailleurs, qui est très incompris. Très peu de gens comprennent ce que ça veut dire. Un certain nombre en parle, le lisent certaines choses, mais ne comprennent pas vraiment ce qu'ils citent dans le livre de l'Apocalypse. On voit même dans les premiers versets du livre que seuls ceux qui sont appelés par Dieu à cette époque et que seuls ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois peuvent le comprendre réellement. Et voir ce que ça signifie. En comprendre les symboles, et les symboles qu'on voit à l'intérieur de ce livre-là sont expliqués par la Bible elle-même. Ce ne sont pas des explications humaines. Alors, seuls ceux qui font la volonté de Dieu comprennent vraiment le livre de l'Apocalypse. C'est pas sans raison, parce que quand vous allez voir dans Actes 5, verset 32, il est dit que Dieu donne son Saint-Esprit, sa puissance pour nous aider à comprendre, à ceux qui font sa volonté, à ceux qui lui obéissent. Donc, pour ceux qui ne lui obéissent pas, qui ne font pas sa volonté, qui ne s'appliquent pas à obéir à ses 10 commandements, y compris celui sur le sabbat, y compris ses fêtes et ainsi de suite, ces gens-là ne peuvent pas le comprendre, tout simplement. Il y a une équation directe. Le Christ lui-même nous dit qu'il a la responsabilité de faire connaître à qui? À ses serviteurs, la signification du livre de l'Apocalypse et de ses symboles. Allez à Apocalypse dès le début. Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, chapitre 1, et on va lire versets 1 à 3, et on va identifier tout de suite la base de ce livre-là, d'où nous vient cette révélation et de quoi il s'agit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, comme je vous disais, pour montrer à ses serviteurs, à ceux qui le servent, à ceux qui marchent dans ses voies, à ceux qui accomplissent son œuvre du temps de la fin, les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, en parlant de l'apôtre Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était quoi à l'époque? La parole de Dieu, c'était l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Alors, Jean a attesté la parole de Dieu qui était écrite, les textes anciens qu'ils avaient à l'époque, qui annoncent d'ailleurs la même chose, parce qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse plusieurs éléments qui ont été annoncés par tous les grands prophètes et même les prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Le plan de Dieu, c'est un plan unique, et Dieu l'a révélé à travers toute l'histoire par ses serviteurs, et notamment au temps de la fin par l'apôtre Jean de façon très puissante dans le livre de l'Apocalypse. Celui-ci, donc Jean, a attesté la parole de Dieu, les écrits de l'époque, et le témoignage de Jésus-Christ, parce que Jean avait entendu le témoignage de Jésus-Christ et lui a rendu hommage, lui a rendu respect. Soit tout ce qu'il a vu, ce que Jean lui-même a vu, dont il a été témoin. Et regardez après le verset 3. Heureux, il y a une bénédiction extraordinaire là. Heureux celui qui lit quoi? Qui lit la Bible, qui lit les prophéties qui sont marquées ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les comprennent. Parce que s'ils les comprennent, c'est parce qu'ils s'efforcent d'obéir à Dieu. Et ils comprennent dans la même mesure où ils s'efforcent d'obéir à Dieu. Et ils cessent de comprendre dans la même mesure où ils cessent d'obéir à Dieu. Le même phénomène se produit dans un sens comme dans l'autre. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pas simplement s'en souvenir, mais les garder précieusement au point de mettre en pratique ce que Dieu nous dit de faire. Et après, regardez ce qu'il ajoute, « Car le temps est proche. » Car le temps est proche. Dans Amos 3, verset 7, vous pourrez vous y reporter plus tard, Dieu dit ceci, « Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et vous vous rappelez, dans le cas d'Abraham, quand le Christ avait rencontré Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorre, il avait dit, « Est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham les choses que je vais faire? » Et après, il lui a dit ce qui allait venir et ce qui allait venir dans son cas, et ainsi de suite. Alors, Dieu révèle à ses serviteurs, aux prophètes, ou à la structure de son Église, à ses ministres, les choses qui doivent venir pour que nous les annoncions aux membres et que nous mettions les serviteurs de Dieu au fait de ce qui s'en vient, pour comprendre les choses qui se passent. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret. Ça reste un secret pour le reste de l'humanité. Je prends la peine d'arrêter sur ce mot-là. Ça reste un secret et un mystère pour le reste de l'humanité. Allez à Apocalypse 22, un peu plus loin. Apocalypse 22, on va avoir encore une certification de ça ici. Apocalypse 22, versets 6 et 7. « Ces paroles sont certaines et véritables. » Tout ce qui vient d'être écrit dans le livre de l'Apocalypse par Jean. Il dit « Ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui les étudient, qui les considèrent, qui les respectent au point d'en vivre et de mettre en pratique les directives que Dieu nous donne. C'est fantastique. C'est une bénédiction extraordinaire que Dieu nous donne de pouvoir comprendre ces choses-là, d'y avoir accès et d'avoir accès au trône du Dieu de l'univers. Alors, je reviens à Apocalypse maintenant, le premier chapitre, dès le début, ce qu'on a vu tantôt, révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Christ est venu faire sur la terre? Bien sûr, il est venu donner sa vie pour payer l'amende de nos fautes, mais il est venu accomplir beaucoup d'autres choses en même temps, en rapport avec le même but, avec le même objectif. Il est venu pour révéler son Père, hein? Faire connaître son Père. Et il est venu aussi pour magnifier la loi. Non pas pour l'abolir, mais pour l'expliquer dans toute sa dimension spirituelle. OK? Et pas seulement ça, c'est qu'il est venu pour révéler à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Pourquoi? Pour les encourager et pour les motiver à continuer à travailler fort avec l'aide de Dieu pour changer leur vie, pour conformer leur vie à la volonté de Dieu et être dignes d'échapper aux choses qui s'en viennent, aux grandes calamités qui vont bientôt frapper la face de la terre. Le Christ est venu révéler ça à ses serviteurs. Mais pour le reste de l'humanité, ça reste un secret, ça reste un mystère. Regardez comment Paul en parle dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Paul parle de son ministère ici, versets 25 et 26. Il parle de l'Église, il dit, « C'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre. » Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et c'est le travail que nous avons à faire en tant que ministre, d'annoncer la parole de Dieu. On doit annoncer exactement ce que Dieu nous a dit. On ne comprend pas toute la Bible au complet, mais Dieu révèle à mesure les choses qu'on doit comprendre, et ce que nous comprenons, nous devons l'enseigner. Nous l'enseignons à ceux que Dieu appelle, et nous en rendons témoignage à la radio, à la télévision, sur Internet, pour que ça serve de témoignage avant que la fin vienne, comme c'est marqué dans Matthieu 24. Alors, Paul dit, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? Il l'a définie après, regardez bien, ça correspond à ce que je vous dis. La parole de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps et de tous les âges, aux yeux de tous les êtres humains, excepté ceux à qui Dieu veut le révéler. Ça reste un mystère, sinon. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à ceux qui se sanctifient, à ceux qui se mettent à vivre différemment de la façon dont ils vivaient avant. pour plaire à Dieu, pour marcher dans ses voies, recevoir sa force pour comprendre davantage et se préparer au monde à venir, tout en ayant la promesse ensuite que Dieu va nous protéger dans le lieu de sécurité lorsque les temps vont devenir extrêmement difficiles, lorsque ce sera le temps de la grande détresse. Fantastique! Mais ce qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse, ça reste le mystère caché aux yeux de l'ensemble de l'humanité. Même des gens qui sont extrêmement religieux ou qui se disent très chrétiens et qui parlent de l'Apocalypse ne le comprennent pas réellement comme il est donné à ceux qui servent Dieu et qui marchent dans ses voies de le comprendre. À partir de là, quand l'apôtre Jean a eu ces visions-là et que Dieu lui a demandé d'écrire ça dans un livre, le livre qu'on a, le livre d'Apocalypse, il s'est fait dire que c'était un message qui était adressé à l'Église de Dieu dans les différentes époques à travers l'histoire, jusqu'à nous aujourd'hui, ce que la Bible appelle les sept églises dans l'histoire. Ce message-là est adressé aux sept églises. Regardez Apocalypse 1, où on était tantôt, Apocalypse chapitre 1, et on va voir le verset 11 maintenant. « Ce que tu vois, c'est ce que Dieu dit à l'apôtre Jean, « ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » À ce moment-là, ces sept églises-là étaient des petites églises locales de Dieu qui étaient en Turquie. C'était un circuit postal. Mais ça représente les différentes étapes de l'Église dans l'histoire, à partir de la fondation de l'Église, au début de notre ère par le Christ, jusqu'à son retour. Sept étapes bien précises dans l'œuvre de Dieu ou dans l'Église de Dieu, si vous voulez. Et chacune de ces étapes-là a un état spirituel. Chacune de ces églises est caractérisée par un certain état spirituel. Et cet état-là, on la retrouve à différents moments donnés dans l'Église à travers les âges. Plus fortement à une époque, moins fortement à une autre, mais ce sont des mises en garde, ce sont des avertissements pour nous de faire attention que ces faiblesses-là, que le Christ a soulignées dans chacune des sept églises, ne soient pas notre lot et qu'on fasse attention de ce côté-là. Jésus nous dit d'apprendre les leçons qu'on a à tirer de chaque église. On va voir rapidement maintenant les descriptions de chaque église et les avertissements que ça comprend. Et celui qui nous révèle ça, comme on a vu dès le début du livre d'Apocalypse, celui qui nous révèle ça, le Christ décrit ainsi, par exemple, l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 4. L'église d'Éphèse, la première qui a existé après la fondation ou à partir du moment de la fondation de l'église. Qu'est-ce que le Christ dit à cette Église? La première étape dans l'histoire. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et pour tous les chrétiens qui ont été appelés, ce n'est pas un grand nombre, là, mais tous les chrétiens qui ont été appelés au cours de l'histoire, et c'est vrai pour nous aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas abandonner notre premier amour. Vous savez, lorsqu'on découvre la vérité de Dieu, lorsqu'on découvre son plan, qu'on réalise que Dieu existe, qu'on peut entrer en contact avec lui, qu'on peut voir nos fautes être pardonnées, qu'on peut passer par les eaux du baptême, qu'on peut recevoir à ce moment-là son Saint-Esprit en nous pour être capable d'avoir plus de force. Quand on découvre ça, on est emballé et on est prêt à tout abandonner pour la perle précieuse. Mais avec le temps, parfois, et l'usure du temps, cet enthousiasme-là, parfois, diminue et on peut être porté à laisser de côté de plus en plus notre premier amour. Et c'est ce que le Christ a reproché à l'Église du début, la première étape. Et c'est une leçon pour nous. C'est pour ça que je vous dis avertissement à adresser à nous. Deuxième étape maintenant, l'Église de Smyrne. Il dit, parce que c'est une Église qui a été fortement persécutée. Je n'entrerai pas dans les détails. On a des articles là-dessus. Vous pourrez aller sur Internet et lire ces choses-là, voir ce qui est vraiment arrivé. Mais à la deuxième étape de l'Église dans le temps, l'Église de Smyrne, qui a été fortement persécutée. Qu'est-ce que le Christ dit dans Apocalypse 2, verset 10? Il dit à cette Église-là persécutée, « Sois fidèle. » Sois fidèle. Autrement dit, ne cesse pas d'être persévérant. Tiens bon, quelles que soient les circonstances. Et les circonstances sont souvent difficiles. Et à certains moments donnés, elles deviennent encore plus difficiles. Mais il dit, persévérez, parce que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé, comme c'est marqué dans Matthieu 24. Alors, à cette Église-là, le Christ a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. et je te donnerai la couronne de vie. Tu auras la vie éternelle si tu persévères. Troisième église, troisième étape dans l'histoire, Pergame. Ça, c'est l'église du compromis. Cette église-là, quand on regarde les textes, on voit qu'elle tolérait l'immoralité sexuelle. Et Jésus leur dit, « Repens-toi donc, sinon, si tu ne changes pas, se repentir, c'est arrêter de pratiquer le péché, la transgression des lois et commencer à vivre selon Dieu. Si tu ne changes pas, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le mot « lait » ici, dans le contexte, ce sont ceux qui sont attachés aux fausses doctrines. Vous pourrez lire dans le texte d'Apocalypse 2, versets 15 et 16. Apocalypse 2, versets 15 et 16. Il dit à cette église de Pergame, qui était portée à faire des compromis, à faire les coins ronds, à garder l'immoralité dans leur façon de vivre, il dit, « Sortez de là, sinon je vais enlever votre chandelier de votre place, je vais vous abandonner. » Maintenant, la quatrième église, Thyatire, on peut l'appeler l'église corrompue. C'est frappant parce que c'est quand même l'église de Dieu, là, qui avait ses traits de caractère négatif. L'église de Dieu n'a jamais été parfaite. Mais Dieu veut l'amener à être parfaite. Et nous devons tirer leçon de toutes ces choses-là. La quatrième église, Thyatire, connue comme l'église corrompue. Ensuite, l'église de Sardes, qui, elle, est appelée l'église morte. L'église morte, c'était quand même l'église de Dieu. Il y avait seulement quelques personnes qui continuaient à vraiment servir Dieu. On le voit par le contexte. Et c'est à ce groupe-là que M. Herbert W. Armstrong est venu et qui a connu la vérité. C'est à ce groupe-là qu'il est venu. Et ensuite, bien sûr, Dieu lui a révélé les faits, lui a révélé plein de vérités qui avaient été perdues par cette église que Dieu dit être morte, parce qu'elle s'était éloignée des doctrines de base. Dieu les a révélées, ces doctrines-là, à M. Armstrong. M. Armstrong les a mis en pratique et l'Église de Dieu a grandi à ce moment-là de plus en plus. C'était le début de la période de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, ça veut dire les frères qui s'aiment. Et nous devons continuer dans la même attitude, dans la même approche. Et l'Église du Dieu vivant, ce sont les restes de l'Église de Philadelphie. Nous sommes maintenant à une autre époque que l'époque de Philadelphie. Nous sommes à la dernière époque, c'est-à-dire l'époque de Laodicée. L'époque de Laodicée. Mais à l'église de Philadelphie, Dieu fait une promesse extraordinaire. Et je vais en reparler tantôt dans le message. Celle de nous protéger si nous sommes fidèles. Quand va venir la grande détresse? Quand va venir la période la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité? Apocalypse 3, verset 10. Regardez la promesse que Dieu fait à ceux qui ont l'attitude philadelphienne et qui la conservent même à l'époque laodicéenne. Malgré le refroidissement autour, malgré toutes les menaces, malgré tous les pièges, malgré toutes les tentations, malgré les combats qu'on a amenés, malgré la persévérance dont on doit faire preuve. Il dit ceci à l'église de Philadelphie ou à ceux qui ont l'attitude philadelphienne, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi, je te protégerai à l'heure de la tentation, à l'heure de la détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Regardez comment tout se tient. Dieu promet sa protection à ceux qui persévèrent à garder sa parole dans leur vie, à la garder vivante et à en vivre. Même à l'époque de Laodicée où nous sommes. La dernière église, comme j'ai mentionné, c'est celle de Laodicée, qui est appelée, celle-là, l'église tiède. L'église tiède. Et ça décrit ceux de l'église qui ne sont pas bouillants pour changer, qui ne sont pas pressés pour changer, qui se satisfont d'une vie agréable et qui n'ont pas tout leur cœur dans l'œuvre pour soutenir l'église, pour prier pour que l'œuvre s'accomplisse, pour prier pour les frères et sœurs qui ont besoin, pour encourager, pour aider dans la mesure où c'est possible. Ceux qui ne font pas ça, mais qui se laissent aller tout simplement avec le courant en pensant que parce qu'ils ont connu la vérité, ils seront dans le royaume, ils se trompent et ils vont devoir passer par un test encore plus grand pour montrer à Dieu qu'ils veulent vraiment lui appartenir. On doit faire le choix maintenant et agir en conséquence, ou sinon le choix sera plus pénible à faire un peu plus tard. Et là, ce sera la dernière occasion de choisir la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est un ou c'est l'autre. Verset 16, il parle de cette église de Laodicée. du temps de la fin, ceux qui sont tièdes, ceux qui ont été appelés. Je ne parle pas de ceux du monde qui ne comprennent pas maintenant, ou des autres religions chrétiennes qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qui sont sincères, mais qui n'ont pas encore été appelés. Ils auront leur chance plus tard. Mais ici, il parle de gens qui ont été appelés à connaître la vérité de Dieu, qui se sont vus révéler les choses de Dieu, mais qui sont restés tièdes, qui n'ont pas avancé plus, ou qui ont avancé pour un bout de temps, mais qui ont laissé leur premier amour, qui ont commencé à faire des compromis, qui ont gardé le mal dans leur vie, qui ont continué à penser qu'en vivant comme ça, qu'ils pourraient quand même être protégés des grandes choses qui viennent. Et regardez ce que Dieu dit à cette Église de Dieu, du temps de la fin, qui est tiède, à ces gens-là, ces Laodicéens. « Ainsi, parce que tu es tiède, » Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est le Christ qui parle. Il ne dit pas qu'ils vont être détruits éternellement là. Il dit qu'il va les vomir de sa bouche. Simplement pour ceci, c'est que ces gens-là ne seront pas amenés à un lieu de protection ou à un lieu de sécurité. Ils seront rejetés dans la grande détresse qui va arriver au temps de la fin. Et là, dans ces conditions extrêmes, ils vont devoir prouver à Dieu, même en donnant leur vie, qu'ils veulent lui appartenir et qu'ils veulent obéir à ses lois. Ce sera leur dernière chance de pouvoir le faire en toute liberté, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. Nous sommes à la meilleure époque pour faire le bon choix, et si nous sommes persévérants, nous allons pouvoir tirer les bénéfices des promesses de Dieu. Alors, quand le Christ dit « Je vais vomir de ma bouche », c'est qu'il va les rejeter simplement dans la grande détresse en espérant qu'ils passent le test ultime. Et ce sera le test ultime. Alors, on doit aussi écouter les avertissements du Christ dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai appelé mon sermon « Avertissement et espoir puissant ». Parce qu'il y a un espoir puissant. Dieu promet son aide à ceux qui veulent faire sa volonté et Dieu promet sa protection. Mais il faut vraiment se mettre du côté de Dieu. Apocalypse 3, verset 19. Regardez comment Dieu exprime son amour. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Oui, parce qu'il ne veut pas les voir souffrir. Il veut que ces gens-là changent. Et il est prêt à les protéger. Mais s'ils ne font pas ce qu'il faut maintenant, parce qu'il les aime, il va les vomir de sa bouche et les laisser aller dans la grande détresse, parce qu'il les aime justement pour leur donner une autre occasion d'être capable de faire partie de sa famille et d'avoir accès à la vie éternelle. Il dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, voyez-vous, Jésus nous exhorte à appliquer ces messages adressés aux églises dans notre vie à nous. Et il dit à 7 reprises, à chacune des 7 églises de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il dit ceci, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, il dit, « Faites attention, portez oreille à ce que je vous dis. Ce n'est pas des choses sans importance. » À chacune des 7 églises, Christ dit la même chose, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et comme je mentionnais, chacune des églises a un trait caractéristique à améliorer et nous, on doit s'en servir comme modèle pour améliorer notre approche par rapport à notre vie chrétienne. D'ailleurs, écoutez, c'est les mêmes avertissements que le Christ a donné lui-même en personne quand il est venu pour la première fois. Allez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, on va lire le verset 24 à 27. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que la Bible dit, il ne s'agit pas simplement d'entendre les paroles, mais de les mettre en pratique. Il dit, celui qui entend les paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et vous savez, le roc, ça symbolise le Christ. On est fondé sur le Christ, la pierre angulaire de l'Église, le rocher des siècles. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'y a pas de fondement solide. Ça ne tient pas. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous savez, Jésus-Christ est celui qui fait connaître les choses. Je vous l'ai mentionné tantôt. Et il veut que ses serviteurs savent ce qui s'en vient et qu'ils puissent s'y préparer. C'est pas pour rien que le Christ a déclaré dans Luc 21, verset 36, « Veillez et priez en tout temps. » Ça veut dire « Soyez proche de Dieu. » Étudiez chaque jour la Bible. Mettez en pratique. Demandez à Dieu son aide pour le faire. Il dit « Veillez et priez en tout temps. » Pourquoi? Afin d'avoir la force, ou dans certaines versions, d'être jugé digne, d'échapper à toutes ces choses qui s'en viennent, la grande détresse, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi, paraître debout devant le Fils de l'homme? C'est être encore vivant. Si je parais encore debout aujourd'hui, c'est parce que je suis encore vivant. Dans la vision de Jean, c'est le Christ. Jean a eu une vision. Il l'a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et dans cette vision-là, c'est le Christ qui ouvre chacun des sept sceaux du rouleau. Et chacun des sept sceaux révèle des étapes majeures qui s'en viennent dans l'histoire du monde. Apocalypse 5. Je ne développerai pas, mais je veux juste situer ça comme il faut. Puis je vis dans la main droite, c'est toujours dans le songe ou dans la vision nocturne que Jean a eue. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Comme ces livres anciens où il y avait des sceaux à chaque fois qu'il y avait un tour de fait dans la peau ou dans le manuscrit qui était tourné autour du rouleau. Et pour lire ce qu'il y avait en dedans, il fallait enlever les sceaux et ensuite lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, on voit que c'est le Christ ici. On va le voir un peu plus loin. Il y avait ces sept sceaux-là. Et regardez le verset 9. Un peu plus loin que le début. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » On parle du Christ ici. « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Tout ça était dans le plan de Dieu. Alors, dans la vision de Jean, il a vu ce rouleau-là et il a vu l'agneau immolé de Dieu qui, lui, avait l'autorité pour ouvrir chacun des sept sceaux en question. D'ailleurs, je vous invite, j'en ai profité pour regarder ça en préparant mon sermon aussi. Si vous ne l'avez pas lu encore, lisez cette brochure-là qui s'appelle « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Si vous l'avez lu, relisez-la. Analysez-la à nouveau, prenez le temps. Après le sermon d'aujourd'hui, vous allez mettre ensemble les morceaux des événements qui s'en viennent et c'est tellement encourageant de le faire. Vous savez, le thème principal du livre de l'Apocalypse, vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, contrairement à ce que l'ensemble du monde pense, ce n'est pas un jour de la semaine. Ce n'est pas le dimanche. D'ailleurs, le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche, c'est le septième jour, c'est le sabbat qui n'a jamais changé. OK? Mais le thème principal de l'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Et c'est une année dans le plan de Dieu et c'est la dernière année juste avant le retour sur terre de Jésus-Christ, comme on va voir tantôt. Apocalypse 1, verset 10, qu'est-ce que Jean dit? L'apôtre Jean écrit, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Alors, dans son songe, Dieu lui a donné de voir ce qui allait se passer à ce moment-là, au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alors, Jean parle ici de la principale époque prophétique dont il va être question dans le reste du livre. Une époque appelée le jour du Seigneur qui va, comme je dis, culminer au moment du retour du Christ sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir le gouvernement de Dieu et ses lois sur l'ensemble de la terre. Et à ce moment-là, ceux qui ont été fidèles jusque-là auront la responsabilité d'enseigner le reste des autres êtres humains. Les fausses religions seront bannies. Il y aura une seule vérité. Il n'y aura plus de guerre. J'entrerai pas là-dedans, mais ce sera un changement total de société, comme c'est promis dans les pages de la Bible. Et comme on va célébrer, quand on va aller, bientôt, à la fête des tabernacles. Parce que la fête des tabernacles représente le millénium, le mille ans, le premier mille ans de paix sur la terre sous le règne de Christ et de ses serviteurs qui ont été fidèles jusqu'au bout. Le jour du Seigneur, il est annoncé, lui, par le sixième de ses sceaux. Il y a sept sceaux sur le rouleau et au sixième de ses sceaux, ça annonce le jour du Seigneur. Il s'agit, à ce moment-là, de signes dans le ciel, dans les astres, de signes célestes ou de dérèglements cosmiques, si vous voulez, qui vont choquer les gens sur la terre. On le voit dans Apocalypse 6, verset 12. Apocalypse 6, verset 12 à 17. « Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la face du Christ, de l'agneau qui revient, parce que c'est le jour de la colère de l'agneau, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Allez à Sophonie, s'il vous plaît, chapitre 1. Sophonie, chapitre 1. Le livre de Sophonie se trouve juste un peu avant Zacharie, avant Agée. Sophonie, chapitre 1, à partir du verset 14, ça décrit ce même jour de l'Éternel, cette dernière année, juste avant le retour de Christ. « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. » On parle de la grande guerre qui va venir à ce moment-là dans les nations, « contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or qu'ils vénèrent actuellement ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Et regardez, chapitre 2, verset 1, c'est un avertissement à nous qui connaissons ces prophéties, qui savons que ça va ensemble avec le livre de l'Apocalypse que je viens de vous lire. Il dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous. » Pourquoi s'examiner? Pour être sûr de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pas pour nous décourager, parce qu'on n'est pas capable d'arriver à être parfait maintenant, c'est sûr. Mais pour continuer à supplier Dieu de nous transformer, de nous donner le courage de passer à travers nos épreuves, les moments difficiles, les crues vagues qu'on connaît tous inévitablement, parfois plus profonds, parfois moins. Il dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne fonde sur vous, sur nos nations, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Et regardez le verset 3. « Cherchez l'Éternel. Veillez et priez en tout temps pour être jugés dignes d'échapper aux choses qui viennent. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. » Voyez-vous, il y a des humbles du pays qui pratiquent les lois de Dieu. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Et c'est ce qu'il veut. Il veut nous épargner. Veuillez et priez en tout temps pour être jugés dignes d'échapper aux choses qui viennent sur le monde. L'agneau, Jésus-Christ, va juger les nations rebelles pour qu'elles comprennent enfin et qu'elles acceptent, qu'elles finissent par comprendre. Les signes célestes, c'est le sixième sceau. Ça annonce le septième sceau de l'Apocalypse, le dernier sceau. Ce septième sceau-là représente le jour du Seigneur. Là, c'est la dernière année dont je vous ai parlé, l'année du jugement des nations. C'est le grand jour de sa colère, comme on voit dans Apocalypse 6, verset 17. Apocalypse 6, verset 17. Ésaïe en parle également. Ésaïe 34, verset 8. Il parle de ce jour de la colère de Dieu. Car un jour de vengeance pour l'Éternel, et regardez bien, une année de représailles pour la cause de Sion. Alors, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur ici, il définit clairement que c'est une année de représailles pour la cause de Sion. C'est très clair. Je vous donne un autre verset qui confirme ça maintenant. Ésaïe 63, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. C'est Dieu qui parle. Et l'année de mes rachetés est venue. L'année de mes rachetés est venue. Voyez-vous, le jour du Seigneur durera une année et c'est la dernière période juste avant le retour du Christ. Alors, le thème principal de l'Apocalypse, c'est le jour du Seigneur, la dernière année avant son retour. Mais l'Apocalypse décrit aussi tous les événements mondiaux majeurs qui vont se passer durant les dernières 3 années et demie juste avant le retour du Christ. Il y a certains événements qui vont se produire juste avant. Ces 3 années et demie d'événements terribles, d'événements qui n'auront été jamais vus, vont débuter par l'entrée en action, à grande échelle, des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous pourrez aller voir l'Apocalypse, chapitre 6. Au début du chapitre, on décrit les 4 cavaliers. Et ça correspond aux 4 premiers sceaux que le Christ ouvre, qu'on a vus tantôt. Alors, ces 3 années et demie d'événements terribles, jamais vus auparavant, vont commencer par l'entrée en action à grande échelle de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Premièrement, fausse grande religion, de faux Christ et des fausses religions. Deuxièmement, guerres à grande échelle. Troisièmement, la famine qui suit les guerres. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme famine, c'est très peu à côté de ce qui va venir. Et quatrièmement, les pestes et les épidémies qui apparaissent durant les guerres et les famines. Et ça sera un niveau jamais vu dans le passé. Vous savez, quand on réalise tout ça, qu'on met ensemble les versets qui décrivent ce qui s'en vient, c'est vrai que c'est atroce ce qui attend le monde. Mais ça ne peut pas passer autrement que par là. Sans ça, le monde n'apprendra pas sa leçon. C'est parce que Dieu les aime qu'il permet que ces choses arrivent. Et il nous donne la responsabilité d'avertir le monde des choses qui s'en viennent. Et nous devons, dans l'Église, nous y préparer spirituellement. Ces 4 cavaliers vont apporter la dévastation sur toute la terre. Comme on lit dans Apocalypse 6, verset 8, Apocalypse 6, verset 8, deuxième partie du verset. En parlant des 4 cavaliers ou des 4 premiers sceaux du rouleau, il est dit ceci, « Le pouvoir leur fut donné aux 4 cavaliers sur le corps de la terre. » Voyez-vous, c'est pas peu de choses, là. « Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. » C'est dit au passé, mais ça va arriver dans le futur. « Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. » pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est indiqué ailleurs la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'ouverture du 5e sceau? Lisons Apocalypse 6, verset 9. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc, il y a des gens dans l'histoire, on le voit ici, qui ont été martyrisés à cause de la vérité divine et parce qu'ils vivaient différemment. Ça décrit ici un martyr des serviteurs de Dieu dans le passé, les véritables chrétiens. Vous vous rappelez qu'au 1er siècle, l'empereur Néron a persécuté et férocement fait tuer les chrétiens. Je vous donne des éléments historiques ici. Il y a une grande persécution des saints qui a eu lieu et qui va se reproduire au temps de la fin, comme le 5e sceau nous l'indique. Jésus a prédit cette tribulation dans Matthieu 24, verset 9. Dans Matthieu 24, dans ce chapitre-là, il dit à ses disciples qu'est-ce qui doit arriver juste avant son retour. Il dit, « Alors on vous livrera au tourment. » Le « vous », c'est qui? Les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Christ. « On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. » Pourquoi? Parce qu'on ne vivra plus comme les nations du tout. Et les nations vont être encore plus plongées dans le mal qu'elles le sont maintenant. Donc, nous serons encore plus différents du monde autour de nous. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les chrétiens, les vrais chrétiens. Maintenant, on peut voir de qui il s'agit. Je reviens là-dessus. On les voit décrits, ceux qui vont passer par ce martyr-là dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 et le verset 17 ici. Le dragon, on sait que c'est Satan, le diable, qui est en arrière-scène de l'histoire humaine et qui va agir avec plus d'intensité au temps de la fin. Verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Voici les Laodicéens que je vous parlais tantôt. Ceux de l'Église qui ne sont pas là de tout cœur. Ceux qui ne travaillent pas véritablement à changer. Ceux qui ne s'appliquent pas à soutenir l'œuvre de Dieu et à devenir vraiment chrétiens de tout cœur. Dieu va leur donner une dernière chance d'affronter cette épreuve-là et même de devoir donner leur vie. Alors, c'est ceux-là qui subiront, pour ainsi dire, ce martyre qui est annoncé dans les textes. Ils vont devoir offrir leur vie en tant que martyrs pour prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Alors que les Philadelphiens, ceux qui persévèrent, même s'ils ne sont pas parfaits, à changer, à soutenir l'œuvre, à s'aider les uns les autres, eux auront eu le bonheur d'être amenés à un lieu de sécurité pour être protégés. On le voit au verset 13 et 14. Quand le dragon, en parlant de Satan, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle, c'est un symbole de protection. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Pourquoi? Afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps, une année, des temps, deux ans, la moitié d'un temps, une demi-année, trois ans et demi. Le temps des grands événements du temps de la fin. La véritable Église sera amenée à un lieu de sécurité où elle sera protégée. Dieu va faire la différence à ce moment-là. Et ceux qui ne seront pas là de tout cœur vont devoir passer par la grande détresse. Mais vous savez, même ceux qui sont fidèles, M. Meredith en parle beaucoup dernièrement, même ceux qui sont fidèles actuellement et qui ont tout leur cœur dans l'œuvre vont devoir passer par certains tests et certaines épreuves avant d'aller au lieu de sécurité, même s'ils ne passent pas par le martyre final que les Laodicéens vont connaître. Alors, je reviens là-dessus. Donc, la grande détresse, deux ans et demi, sans pareil dans l'histoire. D'ailleurs, le Christ le dit lui-même dans Matthieu 24, verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, si personne ne mettait un terme à ces jours, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire personne n'aurait la vie sauve. Tous seraient morts, ce serait l'annihilation de la race humaine. Mais à cause des élus, à cause des serviteurs fidèles, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Christ va mettre un terme à ça comment? En venant sur la terre pour établir son gouvernement. Alors, la grande tribulation, c'est une époque unique dans toute l'histoire. Vous pourrez aller voir dans Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1, il en est question. Jérémie le mentionne clairement dans Jérémie 30, le verset 7, en disant que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, c'est l'ancêtre, donc Israël, les nations modernes israélites. Ce sera un temps d'angoisse comme jamais vu auparavant. Et ce sera en même temps une époque de jugement des nations actuelles en général, mais surtout des nations descendants de Jacob, de souche israélite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ce deux ans et demi de la grande tribulation, de la grande détresse? Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Ici, dans ce qu'on vient de voir rapidement, le Christ nous donne la séquence des événements principaux, principalement la grande tribulation ou la grande détresse qui dure pendant deux ans et demi. Après, vous avez les signes célestes dans le ciel. Ça, c'est très rapide, là. On ne parle pas d'années, là. On parle d'une période très, très courte qui annonce maintenant l'ouverture du septième sceau, qui est le début du jour du Seigneur ou le début de la dernière année avant le retour du Christ, le début du jour de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il dit dans Joël 2, verset 30, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » OK? C'est le sixième sceau dont je vous ai parlé, juste avant le septième sceau. « Du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Voyez-vous, j'ai bien souligné ici, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, donc avant la dernière année, il y aura cette courte période de signes célestes très, très impressionnants. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Donc, il y a trois étapes. Il y a la grande tribulation qui dure pendant deux ans et demi. Il y a les signes célestes, une très courte période, c'est le sixième sceau. Et ensuite, il y a le jour du Seigneur, le thème principal du livre de l'Apocalypse, qui dure pendant une année, c'est le septième sceau, qui comprend différents événements. Durant ces 3 années et demie, l'Union européenne sera devenue en pleine force l'Empire romain ressuscité, ce qui est en train de se préparer sous nos yeux actuellement. Et plusieurs des événements qu'on voit dans les bulletins de nouvelles conduisent directement à la formation d'un noyau solide en Europe qui va former l'Empire romain ressuscité. Et durant ces 3 années et demie, cet Empire romain ressuscité va dominer la scène mondiale à tout point de vue, militairement, économiquement, politiquement et religieusement. Parce que il y a une grande fausse église représentée par une grande prostituée qui monte la bête, qui dirige ou qui est associée, si vous voulez, avec cet empire romain ressuscité. Et ce sera une époque plus terrible que la Deuxième Guerre mondiale. Le Christ dit qu'il n'y a jamais eu de détresse semblable à celle-là dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça implique l'ensemble de l'humanité. Heureusement, Dieu va intervenir, comme on a vu, et il va abréger ces jours-là pour pas que l'humanité se détruise au complet. La bête, l'Empire romain ressuscité, et le faux prophète, le grand chef religieux, vont dominer pour une courte période de temps. Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Vous pourrez lire versets 1 à 10. Ça décrit cette première bête-là, l'Empire romain ressuscité, qui monte de la mer. Et la mer, c'est quoi? Les nations. Cet empire romain ressuscité monte de la mer. Elle monte de parmi les nations. Et elle se forme. Elle est en train de se former actuellement. On va lire le verset 3 à 8 de ce chapitre 13 d'Apocalypse, qui parle de cet empire romain ressuscité. « Puis je vis monter de la mer des nations du monde, des nations en Europe en particulier, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Allez plus loin maintenant, verset 3. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ce ne sera pas un petit mouvement là, dans un recoin de la planète. La terre entière va être en admiration devant cette immense puissance qui prendra forme. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui est semblable à cet empire si puissant? Et qui peut combattre contre elle? » Personne. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. 42 mois, 3 années et demie. Les 3 années et demie dont je vous ai parlé tantôt. La Bible est conséquente avec elle-même et les mêmes choses sont annoncées sous différentes formes dans différents livres. Et elle ouvrit sa bouche, la bête, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, à ceux qui vont encore observer les commandements, qui vont vouloir marcher dans ses voies, mais qui seront restés en arrière, qui n'auront pas la protection de Dieu, comme on a vu tantôt, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La Bible est très claire et c'est puissant comme message. C'est encourageant en même temps, parce qu'on voit que le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, nous annonce d'avance les choses qui viennent et nous dit « Heureux ceux qui lient ces choses-là et qui mettent en pratique les directives de Dieu. » Cette bête écarlate du 17e chapitre d'Apocalypse, elle a 7 têtes et 10 cornes et elle est montée par une femme décrite par une prostituée, une grande fausse église, comme je vous ai mentionné, et comme on voit dans Apocalypse 17 et le verset 15. Apocalypse 17, verset 15. « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Voyez-vous, c'est une grande église qui a autorité sur plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs foules à travers le monde. Et c'est cette grande prostituée-là qui va mener la bête. Et regardez cet empire romain ressuscité qui sera formé de 10 rois ou de 10 nations ou groupes de nations au temps de la fin. De quoi il est question ici dans Apocalypse 17, verset 14, ces rois-là combattront l'agneau, ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles, ses serviteurs persévérants qui sont avec lui les vaincront aussi. ils seront avec le Christ pour mener cette dernière grande bataille. L'agneau, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Et il va revenir sur cette terre pour éviter l'autodestruction totale de l'humanité. Cette époque, elle n'est pas encore arrivée. Vous savez, la septième résurgence de la bête, elle est encore devant nous, elle est en train de se faire. Et là, il y a des secousses économiques qui nous laissent entrevoir une formation plus serrée de cet empire romain. Et formation militaire également, avec tout l'équipement qu'on met ensemble, toute la notoriété qu'on donne à l'Allemagne comme directeur de cette organisation. C'était prophétisé, on le voit arriver sous nos yeux. Cette époque où l'Empire romain est en pleine action n'est pas encore arrivée, mais elle est en train de se former. Et les secousses économiques auxquelles on assiste amènent dans cette direction-là, de même que les menaces de terrorisme islamique qui frappe l'Europe entière actuellement et beaucoup des pays occidentaux. C'est en train de cristalliser les pensées et les actions autour de la formation de l'Europe. Vous savez, on prie chaque jour, on demande chaque jour, et quand on regarde les nouvelles avec de plus en plus de zèle en disant que ton règne vienne, mets fin aux souffrances. C'est horrible de voir à quel point les gens souffrent partout, même dans nos pays nantis. Il y a des horreurs épouvantables ici, il y a des douleurs terribles qui se vivent, même si c'est dans des pays économiquement nantis. Il y a beaucoup de souffrances, mais dans les autres pays, c'est encore pire. Et de d'autres façons, au moment où nous, on est en paix pour célébrer ce Saint-Sabbat, d'autres de nos frères sont dans des conditions extrêmement difficiles et doivent faire absolument attention. Des gens sont décapités, des gens sont tués, on les dépouille. Il y a des gens qui essaient de survivre en traversant la Méditerranée en espérant une vie meilleure et ils tombent dans des situations encore pires parfois quand ils ne meurent pas en cours de route. C'est effroyable. Ce sont les secousses préparatoires au temps de l'accouchement. Ce sont simplement les premières secousses. Imaginez ce que les choses seront dans le futur. Chaque jour, on dit que ton règne vienne. Et vous comprenez pourquoi on dit avec plus d'intensité encore, fait que ça arrive au plus tôt. Aide-nous à finir le témoignage qu'on doit rendre aux nations pour que la fin vienne. Parce que c'est marqué dans Matthieu 24, versets 13 et 14, cette bonne nouvelle du fait qu'il y a un gouvernement mondial sous Dieu, sous le Christ qui sera établi sur la terre, cette bonne nouvelle, elle doit être annoncée à toutes les nations, pas pour les convertir, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Et nous sommes tout proches d'atteindre l'objectif dans ce sens-là. Les jours devant nous sont mauvais. Même ceux autour de nous aujourd'hui sont mauvais. Mais les jours devant nous seront encore plus mauvais. Mais bientôt, il y aura une proclamation merveilleuse qui va être faite. Apocalypse 11, verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Voici la proclamation du début du règne de Dieu sur la terre. Et comme c'est marqué à Ésaïe 9, verset 6, qu'est-ce que le Christ va faire? Ésaïe 9, verset 6, « Donner à l'Empire, l'Empire divin, l'Empire mondial, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Est-ce que des humains peuvent faire ça? Absolument pas. Et regardez ce qu'il dit après, « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, du Tout-Puissant. » Seul lui est capable de faire ces choses-là. Et pendant ce temps-là, comme c'est marqué, on peut s'y reporter dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, un dernier verset ici, Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce qui se passe dans le monde alors que la fin est en train de prendre forme, les grands événements sont en train de tomber en place pour que le livre de l'Apocalypse, dans ses prophéties les plus terribles, se réalise. Regardez Matthieu chapitre 24 et on va commencer au verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure du retour de Christ, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et regardez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui se passait au temps de Noé pour que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passait? Pourtant, il y avait un prédicateur qui annonçait qu'il allait venir un grand déluge. Il s'est fait mépriser, il s'est fait rejeter. Il a fait ça pendant une centaine d'années, tout en bâtissant cet immense navire, là où il n'y avait même pas d'eau. C'était contraire à la logique humaine. Il dit ici, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et le déluge est venu, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Donc, on faisait les choses habituelles, on faisait la vie courante. C'était caché à leurs yeux. Les gens ne comprenaient pas, même s'ils se faisaient dire ouvertement par Noé, qu'est-ce qui s'en venait? Ils ne le voyaient pas, ils ne le comprenaient pas, ils ne voulaient pas changer leur voie. Ils ont continué jusqu'au jour où, et regardez ici, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, jusqu'au jour où les enfants de Dieu seront emmenés au lieu de sécurité, ces fidèles serviteurs qui ont le cœur dans l'œuvre. Et ils ne se doutèrent de rien. » Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, ça va être exactement le même scénario à notre époque, juste avant le retour du Christ. Les gens vont continuer à faire le petit train-train. Ceux qui font des guerres vont continuer à faire des guerres. Ceux qui font de l'argent vont continuer à faire de l'argent. Ceux qui mentent, ceux qui volent, ceux qui essaient de tirer le maximum vont tirer le maximum encore sans réellement se rendre compte de ce qui s'en vient. Mais à un moment donné, ça va frapper. Vous pourrez aller voir dans le cours de Bible, la leçon numéro 2, page 5. J'ai tiré un petit extrait pour ma conclusion ici. Parce que les jours décrits par la révélation du Christ dans l'ouverture des sceaux, ces jours-là, ces événements-là, qui s'en viennent, ils s'en viennent réellement. Comme le déluge s'en venait réellement quand Noé annonçait la chose. Nous annonçons la chose et ça s'en vient réellement. Ce que Dieu a annoncé concernant d'autres circonstances, ça s'est produit, ça s'est réalisé. Et ça va se réaliser aussi. Alors, je cite maintenant ce paragraphe de la leçon 2 du cours de Bible à la page 5. « Le choc et la surprise surprendront la majorité des gens avant qu'ils ne réalisent ce qui leur arrive. Cependant, il ne faut pas que vous soyez pris au dépourvu, ni vous, ni votre famille. Les avertissements les plus sérieux du Christ visaient surtout l'indifférence. » Et le contentement de soi. On parlait des Laodicéens tantôt dans l'Église, qui sont contents d'eux, qui n'ont pas besoin d'autre chose, qui n'ont pas besoin vraiment de changer, qui ont, vous savez? Alors, les avertissements les plus sérieux du Christ visaient surtout l'indifférence et le contentement de soi. Jésus souligna le besoin pour ses disciples de veiller et de ne pas retomber dans leurs anciens péchés. Devant l'aggravation des conditions et l'augmentation du rejet des lois de Dieu, le pire serait d'être tenté d'abandonner. Le pire serait d'être tenté d'abandonner. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est marqué. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme c'est marqué dans Matthieu 24, les versets 12 et 13. La meilleure préparation est la préparation spirituelle. Cela implique un contact intime avec Dieu chaque jour par la prière et l'étude et par un jeûne régulier. Demandant à Dieu d'être jugé digne d'échapper au cataclysme à venir et de pouvoir être debout au retour de Christ pour le rencontrer. Alors, il dit, « Soyez donc sobres, sages et vaquez à la prière. » Bonne fin de sabbat.